ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission « Ces gens qui font la différence ». Aujourd'hui, il fait la différence, Pierre Legault. Quand on s'attarde au parcours de Pierre Legault, on voit un entrepreneur inventif et passionné qui aurait très bien pu choisir un grand succès dans le monde des affaires. Mais non, ce bâtisseur hors du commun a plutôt mis ses idées et ses efforts au service des autres en fondant deux grandes institutions, montréalaise, Moisson Montréal et Renaissance. Nous serons avec lui pendant 60 minutes. Bonjour Monsieur Legault, un grand plaisir de vous recevoir dans nos studios aujourd'hui.
Bonjour, ça me fait bien plaisir d'être là.
Et de vous connaître davantage parce qu'on connaît vos œuvres, on connaît ce que vous portez dans la société et tous les jours on voit le fruit de tout ça. On connaît moins l'homme derrière. J'ai dit en introduction que vous auriez pu très bien être dans les affaires.
Écoutez, c'est un peu étonnant parce que quand j'étais à l'université en psychoéducation, je me destinais à travailler avec des gens en difficulté. Puis on avait fait un test et dans le test, on ressortait nos forces. Mm-hmm. Et j'avais été surpris, puis je riais un peu en disant, ça disait que j'étais pour être fort dans les affaires. Et je me disais, mais j'en ferai jamais des affaires. Je sais pas pourquoi j'ai cette force-là. Et étrangement, quelques années plus tard, avec Renaissance, avec la dimension friperie, je suis tombé, puis ça m'a beaucoup aidé d'être capable de faire des affaires. Mais ma première inclination, évidemment, c'est la dimension sociale, mais en entrepreneurship social, d'être capable de faire des affaires, ça nuit pas.
Ben, tout à fait. Alors, on va revenir avec votre enfance. Quel genre d'enfance avez-vous eu? Êtes-vous un Montréalais? Racontez-nous d'où vous venez.
Écoutez, je suis Montréalais de naissance. Je suis mm-hmm. né dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. J'ai grandi ensuite à Laval, à Saint-Mé-Sainte-Paul. Je suis le deuxième d'une famille de quatre enfants. Père ouvrier, une enfance très heureuse. À 10 ans, j'avais une patrouille de scout, mais c'est une patrouille libre. Puis j'avais un gros chien berger allemand, des walkie-talkies, puis on allait jouer dans les bois. Là. À l'adolescence, je me suis un peu plus cherché, là, mais une enfance très heureuse.
Dans quel sens vous cherchiez?
Bien, écoutez, c'était fin des années 60, début des années 70. Je me cherchais le sens à ma vie. Là. J'avais une sœur un peu plus vieille. Qui était très bonne dans les études, puis moi, j'avais eu du succès. Mais là, je voulais savoir ce que je voulais faire de ma vie. On était beaucoup, à ce moment-là, exposés à l'existentialisme athée. Puis moi, ça répondait vraiment pas à qui j'étais. Puis je me disais, une vie qui a pas d'objectif. Là. Puis moi, je cherchais. Et vers 18, 19 ans, 20 ans, à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, je n'ai pas un parcours traditionnel au grand désespoir de mon père, parce que ma sœur était tellement, dédiée à ses études et tout ça, je suis parti faire le tour du monde. Et je voulais trouver mes propres réponses, et puis j'étais en déplacement pendant quelques années avant de retourner aux études.
Ce qui est la meilleure école, non?
J'ai des enfants, puis ils font la même chose.
Ah,
et puis,
voilà.
Je peux pas dire non, là.
Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retenez de cette période, justement, d'avoir fait le tour du monde à vos 18 ans? Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage?
J'ai passé à peu près 5 mois en Europe, puis une couple de mois en Inde. Je pense que c'est à l'Arche de Jean Vanier, dans le nord de la France, où j'ai travaillé avec des personnes handicapées.
Oui.
Et que j'ai comme... c'est une vie communautaire. On côtoie, hein, on ne travaille pas pour les personnes, on est avec les gens. Mm-hmm. Puis j'ai comme pu apprivoiser ma propre fragilité, puis rencontrer des gens extrêmement authentiques. Et là, tout à coup, j'avais plus ce vague à l'âme. Je ne cherchais plus qui j'étais. C'est comme si je l'avais trouvé. Je me suis dit... Et là, j'ai réalisé que dans ma vie, pour être heureux, j'étais pour avoir besoin de travailler pour une cause et pour des gens. Et c'est là à 20 ans, à l'Arche, avec Jean Vanier, que les choses sont devenues plus claires pour moi. Puis j'ai 60 ans, 40 ans plus tard. Et c'est de là que vient l'inspiration de tout ce que j'ai fait par la suite.
Alors c'est ça. Il y a, vous dites, le travail relié à une cause donne un sens à ma vie. C'est tout à fait vous, ça.
C'est tout à fait ça, oui, bien sûr. Puis c'est étonnant parce que j'ai rencontré des gens là-bas, puis je suis encore en contact avec un bon copain avec qui, en fait, je viens de traverser l'Atlantique en voilier. Et cette personne-là a pris sa retraite. Moi, je n'ai pas encore le moyen de prendre ma retraite. Mais lui a travaillé pour une banque, une grosse banque aux États-Unis, et parce qu'il n'avait pas le choix. C'était un Américain où il était. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités de travailler dans le social puis de nourrir sa famille. Et je disais souvent à mon épouse, Margaret, je respecte beaucoup ce que fait Bud et je comprends qu'il y a toutes sortes de métiers. Puis les gens, mais moi, personnellement, étant qui je suis, j'ai besoin de cette cause-là tous les matins qui m'anime. Là. Puis je ne veux pas dévaloriser ce que fait Bud du tout. On est bons copains et on se comprend bien. Mais moi, personnellement, peut-être à cause du cheminement, du questionnement que j'ai eu adolescent, j'ai besoin de cette cause-là. Ouais. Et c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Puis éventuellement, c'est là qu'il y a eu Moisson Montréal et Renaissance.
Alors, on va évidemment parler de tous vos organismes. Avant, vous parlez de l'Arche, mais est-ce que vous vivez en France? Il y a une période de 1974 à 1977. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous travaillez pour l'organisme?
J'ai travaillé, j'étais en France, à Trolley, au nord de Paris. Je suis arrivé le jour de Pâques du mois d'avril et je suis parti quelque part au mois d'août. Et j'avais rencontré là-bas un Indien, Mitran Dumont. Je me rappelle bien lui. Et je suis allé le retrouver pour donner un coup de main. Il démarrait un foyer de personnes handicapées près de Madras, à Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Et je suis allé là une couple de mois en 75. Mais là, je me suis rendu compte que je ne parlais pas tamoul, j'avais rien à apporter. Puis c'est là que j'ai décidé, OK, là, si tu veux vraiment être sérieux avec ce que tu veux faire de ta vie, retourne au Québec, retourne à Montréal, apprends un métier. Puis c'est là que je suis devenu psychoéducateur. Et ça a duré 74-75 et j'ai travaillé ensuite dans des ateliers protégés. Et là, je suis retourné aux études.
Et les études aussi, c'est assez étonnant. Ben, c'est pas étonnant, mais c'est... Management à McGill, c'est où dans l'ordre de votre vie, ça? Mais parce qu'il y a psychoéducateur, bon, on le voit, c'est naturel. Là.
On comprend
mais
bien.
Le management à McGill, c'est quelque chose, là. C'est intense en plus.
C'est intense et c'est en anglais, hein,
c'est
faut
ça,
le faire.
C'est ça.
Mais c'était un cours un peu spécial. C'était la Fondation McConnell qui s'était mise avec l'Université McGill pour développer un cours de gestion pour, justement, les directeurs, les gestionnaires des organisations à but non lucratif à travers le Canada, qui, en anticipation que les politiques sociales étaient pour changer et qu'on aurait vraiment à se démener dans un environnement où on aurait peut-être à créer des entreprises ou des choses comme ça. Et donc, il y a un investissement de plusieurs millions de dollars fait par la Fondation McConnell. C'est un cours qui a duré juste 3 ans. Ça n'existe plus. C'était juste là, de 1999 à 2002. Il y a eu 3 cohortes d'à peu près 40 personnes. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'était fait sur mesure. Et on est allé aussi étudier, écoutez bien ça, les politiques sociales en Australie et en Inde. Hein, il y a des misères pires que celles-là, on peut s'entendre.
Disons que le cursus du cours était plus qu'intéressant, surtout avec très peu de monde en maîtrise. C'est ça qui est intéressant.
Ah
ouais,
super. Puis j'étais extrêmement impressionné par la qualité de la réflexion et de ce qui se faisait en Inde. Hein. Moi, j'étais fasciné, là. L'Australie, c'était intéressant, là, mais là-bas, là, toute la remise en question... De tout le système actuel dans lequel on est, là. La globalisation pour eux autres, on la connaît, là. On l'a déjà vécu, c'est la colonisation à nouveau. Là,
oui, tout à fait. Fait
qu'on a appris énormément de choses, puis je suis pu retourner pour animer une cohorte l'année suivante. Alors, c'était ce genre de maîtrise-là.
Mais vous étiez déjà interpellée par cette philosophie en un nom, avec votre voyage à 18
ouais,
ans,
ben
il y avait quelque
ça.
Chose qui vous parlait, là.
Oui, oui. J'aimais bien là, toute la spiritualité, là, mm-hmm. le sentiment de transcendance. Là. Quand on arrive en Inde, on rentre dans un autre monde. Là. Mais ça l'a beaucoup changé. Hein. J'étais là en 75, puis retourné, on était retourné en 2000, je suis retourné en 2000-2001. Et là, le nombre de véhicules, les panneaux publicitaires sur le côté des rues, les télévisions partout, c'était pas l'Inde que j'ai connue, là, mm-hmm. avec les gens qui étaient assis dans la rue, là, les vieillards qui ramassaient les grains de riz quand les charrettes passaient, là, en 75. Je n'ai pas revu ça, là. Il y a encore beaucoup de pauvreté, mais il y a quand même une classe, 300-400 millions de gens, là, c'est des petits génies, là, de l'informatique en Inde, là. C'est un pays, là, à 2-3 vitesses différentes.
C'est ça,
là.
Exactement. Alors, on sent vos inspirations, les études, là, on comprend mieux McGill.
Oui.
Parce que vraiment, c'était quelque chose qui était complètement bon au niveau de l'OSBL, c'était au niveau du social. Quand vous êtes en train d'étudier, est-ce que vous dites, ça y est, je sais exactement ce que je vais faire quand je termine ce cours-là?
Je suis allé pour une autre raison aussi, parce que Renaissance se développait beaucoup. À Moisson, Montréal, évidemment, quand j'ai mis sur pied l'organisation, là, mm-hmm. les 6 années où j'étais là, la moitié de mon temps était passé dans la recherche de financement. Puis, vous le connaissez, c'est ce que c'est, là.
C'est constant. C'est récurrent, les organismes en parlent, et puis, bon, le gouvernement est toujours en train de couper. C'est ce qui épuise le plus les gens qui dirigent les organismes,
exactement.
D'ailleurs. Et il y a de quoi.
Mm-hmm. Puis là, l'objectif à Renaissance qu'on mettait sur pied, c'était de retourner les gens sur le marché du travail. Donc, j'ai regardé différents modèles. Et le modèle Goodwill aux États-Unis,
oui,
et le modèle des entreprises d'insertion, le modèle français, on a fait un genre d'amalgame de ça. Et la beauté de cet amalgame-là, c'est de pouvoir avoir une activité économique qui génère une partie des revenus. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me suis dit que ça ne prend quand même pas un prix Nobel pour faire des affaires. Fait que là, on va apprendre à faire mm-hmm. des affaires, puis on va essayer de dégager un surplus qu'on va réinvestir dans l'organisation. Et quand est arrivé, là, il y a passé quelques années, je me suis rendu compte que j'avais besoin de notions d'affaires, de notions mm-hmm. de mise en marché, tout ça. Et dans le cours à maîtrise, à McGill, le cours de management, on a eu un peu de ça. Peut-être pas autant que j'aurais voulu, puis il y avait d'autres dimensions aussi encore intéressantes. Donc, c'est pas un peu pour ça que je suis allé là, pour m'outiller pour le développement de Renaissance, qui prenait de plus en plus d'ampleur.
Pour s'occuper cette fois-ci du capital humain, si on peut dire ça.
Oui, c'est ça.
Si on peut dire ça comme ça. Vous savez que vous choisissez vos chansons à l'émission, et nous, on demande toujours pourquoi. Hein?
Alors,
Neil Young, vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça avec moi, non, certainement pas. Alors, Neil Young, Harvest Moon, pourquoi?
Neil Young, parce que c'était un bébé des années 60-70. Neil Young, c'était quelqu'un qu'on écoutait tout le temps. Puis Harvest Moon, parce que c'est une belle, belle chanson d'amour. Puis moi, j'ai la même compagne là, depuis 37 ans. Là. Puis on aime beaucoup cette chanson-là. C'est que je me suis dit, hein, on va l'écouter. Puis ça me fait toujours plaisir de l'entendre.
Alors, on l'écoute.
Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. See you dance again. 'Cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. On this heart is blue.
Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct, ces gens qui font la différence, et je reçois aujourd'hui Pierre Legault, et c'est vraiment assez exceptionnel, parce qu'habituellement, on reçoit quelqu'un qui a fondé déjà un organisme, c'est déjà énorme. Mais vous, c'est deux, fondateurs de Moisson Montréal et directeur général de Renaissance, c'est quand même quelque chose. Avouez que
c'est... Ça m'a tenu occupé. Ça m'a tenu encore occupé.
Alors, dans l'ordre, on va y aller avec Moisson Montréal. Avant, il y a évidemment des gens qui vous inspirent, il y a des gens qui vous poussent à fonder Moisson Montréal. Et ça se passe à Marie-Vincent. Vous travaillez comme éducateur à ce moment-là. Et vous rencontrez quelqu'un qui va, en somme, changer votre vie, qui s'appelle Lynn.
Oui. Écoutez, c'était... Marie-Vincent, c'est un centre d'accueil, en tout cas c'était à l'époque, pour ce qu'on appelait, j'aime pas bien beaucoup l'étiquette, mais c'était, on disait enfants, mais adaptés socio-affectifs. C'était des petites filles, 6 à 12 ans, qui avaient vécu toutes sortes d'abus auxquels vous pouvez vous imaginer. Moi, j'étais sur une, comme psychoéducateur, sur une équipe thérapeutique, et on accueillait ces enfants-là pour des périodes de 2 à 3 ans. Souvent, si ce n'est pas toujours placé par la cour, parce que c'était des enfants qui ne fonctionnaient plus à l'école. Il y avait des désorganisations constantes, des enfants qui avaient été tellement blessés qu'il fallait que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et la façon la plus, je pense, économique que le gouvernement avait trouvé d'aider ces enfants-là, c'est d'en placer 12 petites filles dans des unités à l'intérieur d'un centre d'accueil, ce qui ne rend pas les choses, évidemment, très faciles.
Non.
Et un dimanche soir, que j'étais en présence, j'étais le seul homme sur l'unité, c'était juste des femmes avec moi et les petites filles. J'étais, moi, supposé de représenter une image masculine positive, souvent la première qu'ils rencontraient dans leur vie. J'accueillais les petites filles le dimanche soir et j'entends Lynn qui arrive, puis qui criait, qui rageait. Et là, ma crainte, évidemment, c'est que j'ai une désorganisation des 12 petites filles. Ça fait que je dis, Lynn, là, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me répondait pas, elle chantait, elle criait. Elle était vraiment pas bien. Ça fait que je dis, attends-moi en haut, je vais revenir te voir. Et puis, je vais coucher les autres petites filles. Je suis allé coucher les autres petites filles. Je suis remonté la voir en haut. Puis, j'ai dit, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Puis là, elle se met à pleurer. Puis, elle me dit, j'ai pas mangé de la fin de semaine. Et puis, et là, elle se met à sangloter à grosses larmes. Ma mère a vendu mon lit. Là, moi, pardon, là, je comprends pas trop. Puis, je lui dis, Lynn, qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère a vendu ton lit. Elle dit, bien, c'est la fin du mois, puis ma mère avait pas d'argent, puis elle dit, de toute façon, t'en as un lit, toi, au centre d'accueil, tu pourrais dormir sur le sofa, puis j'ai besoin d'argent, c'est fait qu'elle a vendu son lit. Puis on peut s'imaginer pour la petite Lynn qui, toute sa vie, se demandait s'il y avait, parce que sa mère la plaçait à répétition, puis sa mère voulait pas qu'elle s'attache trop dans la famille d'accueil, donc après une année ou deux, elle la retirait. Fait que la petite fille, elle savait pas s'il y avait une place, tu sais, physiquement chez sa mère, mais ça avait aussi une place dans le cœur de sa mère. C'était droit à l'âme, là, tu sais.
Aïe.
Fait que, elle était blessée extrêmement profondément. Puis habituellement, c'est une petite fille qui pleurait jamais. Elle rageait, mais il n'y avait jamais de larmes qui coulaient. Mais là, elle était vraiment là, touchée au cœur. J'ai réussi tant bien que mal à la réconforter, à s'est coucher. Puis là, c'était moi qui étais à l'envers après ça. Puis je me suis dit, comment ça se fait que dans le Québec de ce moment-là, là, au début des années 80, qu'il n'y ait pas de mécanisme? On entendait parler à la télévision régulièrement de reportages, des champs de pommes de terre qui étaient enfouis parce que la nouvelle récolte s'en venait, des fermiers qui vidaient du lait dans les pour pas faire baisser le prix, puis du gaspillage à gauche, du gaspillage à droite. Puis je disais, puis il y a des enfants au Québec qui ont faim puis qui vivent des situations comme ça qui pourraient être évitables. Donc là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Puis j'ai dit, il y a quelque chose qui peut être fait, puis on va le faire. Puis avec des amis, on s'est mis à parler de ça. Puis au même moment, des fois, là, c'est serendipité qu'ils disent en anglais, là. C'est quoi le mot en français? Il ne me vient pas, là. Mais il y a des choses qui font que... Qui
se... La synchronicité. Synchronicité, de la vie.
Merci. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi j'avais en anglais. Et on a vu un reportage sur City Harvest à New York d'une organisation qui faisait la navette, le lien entre la nourriture périssable, qui était pour être gaspillée, mm-hmm. mais encore bonne, et les soupes populaires. Et je me suis dit, bon, c'est une bonne idée. Et donc, j'en ai parlé avec des amis, puis on est allé à New York tout de suite, puis on a décidé de revenir à Montréal, puis créer une organisation qui ferait ce lien-là. Et de là est né Moisson Montréal.
Moisson Montréal en 1984. Et il faut le souligner, la première banque alimentaire aussi. Hein?
C'est ça, parce qu'il existait des organisations qui faisaient évidemment la collecte de la nourriture, mais une organisation mise sur pied uniquement pour alimenter les autres organisations, bien, il n'y en avait pas. Et après, évidemment, il y a eu Moisson Québec, Moisson Trois-Rivières, Moisson Sherbrooke, Moisson Basse-Laurentide. On a formé la Fédération des Moissons du Québec. Et là, je pense qu'il y en a 14 ou même plus que ça. Là. Et de là est né Moisson Montréal. Et juste une dernière anecdote là-dessus. Les gens de CTV à Toronto qui avaient fait le reportage sur le projet à New York ont appelé l'année suivante pour voir qu'est-ce qui était arrivé du projet. Puis ils ont dit, mais vous savez pas, il y en a un projet au Canada et à Montréal. Ils sont venus filmer à Montréal, ils l'ont diffusé. Et là, on a eu énormément de visibilité quand tous les médias francophones ont repris ça. Puis on a eu du financement après ça, ils s'entraident, nous ont aidés. Et c'est comme ça que Moisson a été lancé.
Et au début, ça n'a pas été évident. Moi, je lisais les notes du début de votre entreprise, qui existe toujours d'ailleurs. Vous alliez chercher les pommes de terre dans les hôpitaux pour
il fallait vraiment vouloir
et vous amener, moi j'écoutais les larmes là, quand je lisais pour faire ma recherche chez moi là, et vous amener ça à l'accueil Bonneau, des gens qui vous allez dans les hôpitaux restant de pommes de terre pour apporter ça à ces gens-là qui ont faim.
Ben oui, puis aujourd'hui, on pense à ça. Souvent, les gens se moquent un petit peu de la nourriture, de la qualité de la nourriture dans les hôpitaux, là, puis c'est pas toujours vrai, là, mais c'est sûr que c'est pas des grands restaurants. Mais imaginez l'enthousiasme qu'on avait et comment on voulait là, au début, parce que tout ce qu'on trouvait comme nourriture encore bonne, on allait la chercher. On avait une vieille camionnette qui brisait une journée sur deux, puis qui... je veux pas trop rentrer là-dedans, mais elle était pas très bonne, la camionnette. Mais et on avait. On aurait, puis à l'accueil Bonneau, je suis sûr qu'il y avait d'autres choses à faire que d'accueillir nos pommes de terre. Mais sœur Nicole Fournier voyait le potentiel, puis elle est même venue éventuellement sur le conseil d'administration pendant des années. Mm. Après quelques mois, quand on a eu de la visibilité, bon, on a commencé à aller chercher des grandes quantités, puis on s'est rendu compte que le non périssable, il y avait beaucoup plus de volume, les boîtes de conserve. On a continué avec le périssable, mais c'est là que c'est vraiment devenu une banque alimentaire pour être capable de stocker des gros, gros volumes de la soupe que, ou le, qui ont oublié de mettre le sel. Mais aujourd'hui, ils n'en mettent plus de sel, mais dans le temps, ils en mettaient. Ou des choses qui ne répondent pas au niveau de contrôle de qualité, mais tout à fait comestibles. Et là, on a pu jouer notre rôle.
Alors, vous habitez presque là-bas parce que vous travaillez comme un fou de 84 à 90, mais vous dites les banques alimentaires, c'est bien, mais en même temps, c'est du poison.
Bien, je dirais pas c'est du poison parce que je respecte trop mes confrères et mes consoeurs qui font ce travail-là et surtout que c'est un besoin. Il y a encore des gens qui en ont besoin. Mais
ce qui vous parle au niveau du poison, quand vous avez dit ça, c'est sans doute qu'on ne devrait pas avoir affaire à ça, dans le fond, que notre société devrait être plus égalitaire et plus distribuée, plus partagée.
Dans ce sens-là, c'est certain. Mais là où, de par ma formation de psychoéducateur, où je suis arrivé, c'est de me dire, je voyais des gens, des organismes qui venaient faire du bénévolat chez nous, puis des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. Puis des fois, ils travaillaient mieux que nos employés rémunérés. Puis je leur parlais, je disais, mais pourquoi tu ne travailles pas? Et là, les gens m'exprimaient, puis vous allez voir
le cheminement
avec ça. Oui, oui. Pierre, tu sais, ça nous fait plaisir d'être ici, il n'y a pas de pression. Puis arriver avant le début, puis partait après l'heure de fermeture, ben ou après 5 heures, puis tout ça. Puis, mais on a vécu des choses difficiles. Puis là, j'apprenais l'histoire des gens un peu comme Lynn, qui avaient vécu des choses difficiles dans leur enfance, qui avaient perdu leur emploi ou qui avaient vécu des séparations difficiles, des problèmes de santé. Puis là, on arrive en situation de travail, puis on est tellement nerveux qu'on finit par perdre nos moyens. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait mettre sur pied une organisation pour aider ces gens-là.
Alors, on revient avec la suite et aussi l'autre organisme, parce que ça va dans le temps. On fait une pause publicitaire, on revient tout de suite après.
Okay.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Pierre Legault. Il est fondateur de Boisson Montréal et fondateur-directeur de Renaissance. Alors justement, on est rendu à ce passage. Il y a eu des obstacles au niveau du premier organisme, des remises en question, hein, finalement. Et vous avez à ce moment-là vos 6 enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous décidez d'aller ailleurs? Comment ça se passe à Boisson Montréal?
Bien, la partie Moisson Montréal était créée là, en 90. Puis mon côté entrepreneur là, social, bien, je disais, mais là, t'es là, le financement est là. La fondation de Sèvres venait de nous acheter une bâtisse. Donc, il y avait un mécanisme qu'on avait monté de non-réveillon qui marchait bien. C'est que je dis, moi, mon travail est fait d'une part. Mais d'autre part, ce qui m'amenait à aller plus loin, c'est que je rencontrais des gens dans l'organisation, qui avait besoin qui pouvait travailler, mais qui avait besoin d'un soutien. Mm-hmm. Et dans le fond, ce qu'on disait à l'époque, c'est oui, on a donné le poisson pendant plusieurs années, puis il faut continuer à le donner, mais il y a des gens qui peuvent apprendre à pêcher. Mm-hmm. C'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont bénéficiaires des repas dans les soupes populaires, des sacs d'épicerie dans les comptoirs alimentaires, qui pourraient aller sur le marché du travail. Puis je me disais, il faut monter cette organisation-là. Puis ce que j'avais appris en psychoéducation avec Jeannine Guindon, les forces libres du moi, c'est-à-dire d'investir dans les gens, dans des parties de leur être où ils ne sont pas touchés. Donc, c'est pour ça qu'à Renaissance, aujourd'hui, on ne demande pas à quelqu'un de nous raconter en premier toutes les déboires, les difficultés qu'ils ont eues dans leur vie. On ne touche pas à ça. On parle des rêves, on parle de l'avenir, on parle de la possibilité de se renforcer en quelques semaines, quelques mois, puis ensuite, puis on le voit, là, après 3-4 mois, le regard change.
La confiance.
La confiance, ouais, c'est ouais, ça, c'est ouais, toute ouais. une question ouais. d'estime de soi. On le sait, là, nous-mêmes, quand on a eu des difficultés, pas travailler pendant quelques mois, on perd confiance, on pense qu'on n'est plus capable. Là. Puis là, la nervosité s'y met, puis là, les gens arrivent au travail sans préparation. Puis c'est sûr qu'ils rebondissent. En dans 2-3 jours, ou bien ils partent, ou bien ils se font mettre dehors. Donc, les gens me disaient, Pierre, on voudrait, mais on n'est pas capable, on ne sait pas pourquoi.
Donc, il y avait ce pan-là, parce qu'avec Moisson Montréal, les ventres commençaient à ne plus être vides, votre mission était accomplie à ce niveau-là, mais il y avait quand même quelque chose pour vous n'était pas encore tout à fait atteint, de dire, il faut faire quelque chose avec la réinsertion, que ces gens-là retournent sur le marché du travail, et donc, c'est là où est née, je vais le dire, la Renaissance, si on veut.
C'est ça, tout à fait. Et en fait, il y a eu une période entre 90 et 94. On n'a pas pu démarrer Renaissance en 90 parce que le financement qu'on avait eu, les gens étaient inquiets que c'était compliqué Renaissance puis que ça ne fonctionnerait peut-être pas. Finalement, on est obligé d'entendre en 94. Je suis retourné travailler à l'Arche années. Puis...
L'Arche est souvent dans votre vie. Cette période-là, vous retournez à l'Arche.
C'est ça. J'étais coordonnateur régional. Mm-hmm. J'étais secrétaire d'Association du Québec. Et là, à un moment donné, les gens de Moisson sont venus me voir puis on dit, « Hey Pierre, on est prêt. Ça fait que si tu viens, là, on va te garantir ton salaire pendant 6 mois. On pense que ça va fonctionner, l'idée dont tu nous as parlé. » Puis là, on a regardé ça, puis je t'ai parlé avec mon épouse, puis mon épouse m'a dit, ben ouais, vas-y, ça devrait marcher. Elle m'avait dit la même chose avec moi sur Montréal à l'époque, on n'avait pas du tout de financement.
Elle
n'est pas nerveuse.
Ah, c'est pas pour rien que vous êtes avec elle depuis 37 ans. Elle a cru en vos rêves.
Ah, oui, ben absolument. En fait, c'est elle qui a trouvé le nom Renaissance.
Ah, bien.
Ah oui, puis à l'Arche, c'est elle qui avait baptisé aussi l'Esquif, le premier foyer. Non, c'est vraiment mon âme sœur, puis on fait tout ensemble, même si elle n'est pas physiquement présente, on se parle tout le temps de Renaissance. Donc, évidemment, la difficulté, on avait 6 enfants à l'époque,
ce qui est pas rien.
Le plus jeune avait 2 ans, le plus vieux avait 15 ans. Hein? On a 4 filles entre 2 garçons. Là. Fait que là, on avait toute cette petite marmaille-là. Puis là, mais finalement, on a fait confiance à la vie. Puis on a eu du financement de différentes fondations. J'essaie de me rappeler. Je pense que De Seb nous avait aidés. Molson, McConnell, on a un peu d'argent. Puis des programmes de développement d'emploi. Puis en 94, on s'est incorporé puis on a démarré les activités en 95. Donc cette année, c'est le 20e par rapport au démarrage des activités. Et le modèle, je peux dire quelques mots là-dessus, c'est que l'activité, c'est la récupération de biens de consommation usagés, oui. Vêtements, vaisselle, souliers, articles de sport. Ce que vous avez chez nous, on le prend chez nous. On est dans le deuxième R du réemploi, donc c'est-à-dire des 3 RV, là, de l'approche de la consommation responsable. Les 3 R étant la réduction, de réduire sa consommation à ce qu'on a besoin, puis pas consommer pour rien. Deuxième R étant le réemploi. Donc,
c'est pour
éviter d'être obligé de recréer un bien. Et s'il est encore bon, ne pas le jeter. Nous, on récupère et on le revend. Et avec ça, on finance nos activités. Évidemment, il y a le recyclage, mais nous, on n'est pas nécessairement dans le recyclage.
Alors, il y a écologie, aide aux quartiers défavorisés, réinsertion sociale, évidemment. Vous avez, vous êtes inspiré de Goodwill, des friperies depuis 1995, 11 magasins, des librairies. Je tiens à le dire aussi, si vous êtes autofinancé à 80%, c'est pas rien.
Bien, on l'était pas au début. Hein. Au début, c'était l'inverse. On était autofinancé à 20%. Et ce qu'on a fait en amalguant le modèle des entreprises d'insertion et le modèle Goodwill, c'est qu'on s'est donné le modèle des entreprises d'insertion, c'est une partie des employés de l'entreprise qui sont des gens qui sont en insertion. Donc, il y a des postes tremplins qui ne sont jamais comblés à temps plein. Et le modèle Goodwill nous donnait les friperies qui génèrent des revenus intéressants. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, ne sachant pas de quoi l'avenir sera fait, puis ayant vécu à Moisson-Montréal beaucoup de changements de politique, changements de programme, on s'est dit, on va viser un autofinancement élevé et on créera un jour nos propres postes d'insertion. Puis aujourd'hui, on le fait. Notre magasin à Laval a 6 postes d'insertion, puis c'est financé à même les revenus des magasins.
Vous êtes à Laval, vous êtes à Montréal.
On est à Montréal. Nos librairies sont aussi sur l'île. Il y en a une à Ville-Mont-Royal. On a le projet d'ouvrir un magasin sur la rive sud qu'on regarde présentement. Puis on regarde les opportunités. On est vraiment adopté par la population montréalaise au niveau des dons. On a plus de 400 000 dons par année. Donc, c'est vraiment, on est extrêmement choyés.
Le chiffre d'affaires, 17 millions.
Ben oui, on essaie de pas trop le dire.
Non, mais moi je le dis parce que, chapeau, parce que c'est une entreprise qui donne, qui a une mission, on va le dire, sociale et humanitaire.
Ouais, ouais.
C'est une entreprise qui redonne au suivant et qui fait en sorte que des lignes non seulement quelque chose à manger, mais un lit pour dormir dans sa chambre. Ouais.
Bien, vous êtes bien gentil. Écoutez, ce qu'on fait, de toute façon, c'est un conseil d'administration bénévole, hein? Et l'argent est réinvesti là, s'il y a des surplus. Les années où il y a des surplus, c'est réinvesti dans des services additionnels. C'est vraiment à but non lucratif. C'est des gens représentants de la communauté qui sont sous conseil d'administration. D'ailleurs, Nicole de l'Accueil Bonneau était pendant quelques années sous le conseil d'administration.
Alors, vous la retrouvez là?
Oui, c'est ça.
et qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous voyez justement que ces gens sont réinsérés dans la société, que les gens peuvent s'habiller, que peuvent avoir des meubles, comme émotion?
Bien, c'est très... Le travail qu'on fait, là, et on se le dit souvent, ça... Il y a une profonde satisfaction. Dans le fond... Il y a un deuil à faire pour plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup de gens du privé maintenant qui sont venus travailler à Renaissance. Il y a des gens qui auraient pu démarrer leur propre entreprise. Et moi, c'est sûr que le jour où je prends ma retraite, je ne vends pas mon entreprise, je ne vais pas jouer au golf. De toute façon, je ne joue pas au golf. Mais c'est qu'on a créé quelque chose pour la communauté. Mm-hmm. Mais le pendant de ça, c'est de voir la satisfaction de voir les gens renaître, reprendre leur place au soleil. Puis il y a une famille, une dame qui vient avec deux, trois enfants, souvent chef de famille monoparental, qui se trouve un emploi ensuite, là, puis c'est toute la famille qui a des revenus, il y a des rêves qui n'étaient peut-être pas possibles, qu'ils sont, là. Et puis ce qu'on aime de dire de Renaissance, c'est que si on aime se voir, j'espère que c'est correct, comme une entreprise du 21e siècle. On dit qu'on a une triple finalité. On a une finalité sociale du fait qu'on retourne les gens sur le marché du travail, l'insertion. Une finalité écologique du fait qu'on fait du réemploi. Hein, ces biens-là n'ont pas besoin d'être créés parce qu'on les récupère et on les revend. Puis une finalité économique parce qu'il faut bien payer les factures, mais en ayant des magasins dans les quartiers populaires avec où les gens ont des petits budgets, ça leur permet d'avoir des biens à une fraction du prix qu'ils auraient à payer ailleurs. Donc, c'est l'idée de l'organisation, partagée à la fois par les employés, par les participants, les bénévoles, les membres du conseil d'administration.
Ça vous fait du bien de faire du bien?
Oui! Oui, absolument. Puis ça donne une atmosphère dans l'organisation où c'est très léger. Un peu comme ici, là. Ici, tout le monde, ça riait, puis ça se passe. Mais c'est un peu comme ça chez nous aussi. Là.
Alors, on écoute votre prochain choix musical, Harmonium, pour un instant. Pourquoi?
Ah, mais ce que j'aime beaucoup dans cette chanson-là, même si c'est une chanson qui date peut-être un peu, premièrement, la musique est très belle, mais les paroles parlent d'un éveil à la vie. Là. C'est comme si dans la chanson, quelqu'un dépasse son ego et est en train de... Il peut réussir à créer quelque chose parce qu'il ne se sent pas sur lui-même. Puis j'ai l'impression que c'est ça la vie, hein? Apprendre graduellement, arrêter de se regarder le nombril, puis regarder, puis essayer de regarder autour de soi, là, puis d'aider un peu si on peut.
On l'écoute.
J'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. J'ai respiré très fort.
Nous sommes en compagnie de Pierre Legault, fondateur de Moisson Montréal et fondateur, directeur général de Renaissance. Alors, parlons de Renaissance, justement. Il y a eu comme une controverse. D'ailleurs, moi, je l'ai appris aussi parce que je fais beaucoup de dons, qu'il fallait vraiment regarder les boîtes, hein, parce qu'on pouvait se faire avoir. Vous vous situez où? Parce qu'il y a des boîtes de Renaissance, mais ça a l'air qu'il y a eu d'autres boîtes de vêtements qui font des profits. Vous, comment ça fonctionne? Comment vous avez pris qu'il y a des gens là, qui viennent s'installer juste à côté de vos boîtes à vous alors que vous faites un travail fantastique pour la bonne cause?
Oui, écoutez, c'est tout effectivement une controverse. On a perdu plusieurs de nos boîtes du fait que des organisations, souvent des entreprises privées qui se nomme fondation sans avoir du tout le statut de fondation qui est octroyé par Revenu Canada ou Revenu Québec. Donc, ces gens-là ne peuvent pas s'appeler fondation, mais ils le font quand même. Pas toutes les fondations, mais certaines, là. Et donc, on a perdu des boîtes. Ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que il n'y a pas tellement longtemps, dans les années 80, puis au début des années 90, c'était impensable, ça se faisait pas, ou moi je n'ai jamais vu, qu'une entreprise privée décide de détourner des dons destinés par la population à des gens en difficulté. C'était impensable, ça aurait été odieux, puis les gens n'auraient pas fait ça.
Le mot est juste.
Oui. Puis avec l'arrivée de certains intérêts d'un magasin ici, des États-Unis, de choses usagées, bien, c'est devenu possible de faire ça. Puis on dit, c'est pas trop grave, il y en a assez pour tout le monde. Puis il y a des entrepreneurs québécois qui se sont rendus compte qu'il y a des organisations qui ramassaient des dons, qui vendaient ça. Ils se sont dit, bien, moi, je suis pas plus fou qu'un autre. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a énormément de gens qui ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec les vêtements usagés, qui se mettent à mettre des boîtes de dons. Il y a une émission à la télévision que plusieurs personnes ont vue et ils ont interviewé des propriétaires de ces nombreuses boîtes-là. Il y en a une organisation qui est en train d'en mettre 500 ou 600 là, sur Montréal.
Aïe, aïe, aïe.
Nous, on en avait 120, on est rendu à 80, on en a perdu plusieurs et en ont tellement mis qui ont tué la poule aux œufs d'or parce que là, maintenant, c'est les citoyens qui se plaignent à leur municipalité et ça a commencé il y a une couple d'années en disant mais là, moi, je ne sais plus à qui donner. Là, il y a fondation de ci, fondation de ça. Puis il y a des organisations légitimes là-dedans. Il y a le Chaînon, il y a l'Armée du Salut. Nous, on est vraiment un but non lucratif. Et là, le volume a beaucoup diminué. Heureusement, nous, qu'on a ouvert des centres de dons et des librairies où à la fois on vend des livres, des CD, mais aussi on recueille des dons. Parce que si on n'avait pas fait ça, je ne suis pas sûr que je serais ici en train de vous parler aujourd'hui. Donc, d'organisations légitimes ont perdu des sources de revenus importantes. Et pour moi, c'est carrément un détournement des biens que la population pense donner à des gens en difficulté.
Alors, c'est des voyous, quoi?
Bien, il y a différents degrés là-dedans. Il y a des gens qui ont des causes légitimes mais qui revendent, mais il y a des gens qui n'ont aucune cause légitime et qui font tout simplement ça pour aller chercher des fonds. Et là, les municipalités ont commencé à réagir. Je sais que dans Villeray, ils ont demandé d'enlever carrément toutes les boîtes de dons. Et là, pour réinstaller une boîte de dons, il y a des normes beaucoup plus strictes. C'est sûr que ça nuit aux organisations légitimes en même temps que les autres. Puis là, il faut réappliquer. Mais le ménage est en train de se faire et heureusement. Puis les gens commencent à comprendre qu'il faut aller chercher l'information pour savoir si les personnes sont légitimes.
Quand on arrive avec notre sac, et puis il faut se poser des questions, il ne faut pas mettre ça n'importe où. Bon, justement, j'arriverai avec mon sac aujourd'hui. Comment elle est? Est-ce qu'elle est bien identifiée, Moisson Montréal? Est-ce qu'on doit avoir des numéros à regarder? Je veux vraiment, pour les gens qui écoutent, là, puis qui ont envie de vous donner à vous.
Oui. Mais nous, nos boîtes, c'est Renaissance.
Renaissance, c'est Moisson Montréal.
Mais c'est ça. Puis sur notre site, renaissancequebec.ca, là, il y a une carte où on peut trouver où sont nos boîtes et nos centres de dons. Mais on n'est pas les seuls. Là. Il y a beaucoup d'autres organisations légitimes. Et là, il faut peut-être là, ceux qui veulent voir là, de quoi je parle, peut-être d'aller sur YouTube puis regarder là, l'émission La Facture sur les boîtes. Là, il y a beaucoup de... Ouais. C'est très intéressant, là, puis c'était bien fait.
Alors, on voit, c'est marqué Renaissance Montréal, et là, on ne se trompe pas. Est-ce qu'il y a des numéros associés? Est-ce que vous avez de l'entreprise pour être sûr que ce soit vraiment... Renaissance?
Non, il n'y a pas personne à copier nos boîtes. Là. Parfait. J'espère que personne ne va faire ça, mais il y a des boîtes un peu partout. Puis, c'est ça. Aux États-Unis, il y a différentes choses qui ont été faites pour mettre une espèce de label sur la boîte qui dit que c'est vraiment à but non lucratif, mais personne n'a fait ça encore au Québec.
Alors ça, c'est une chose réglée. C'était toute une histoire, cette histoire de boîte-là. Je voulais savoir aussi, vous avez une aile qui est très intéressante parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. On est à l'ère aussi du recyclage, et tant mieux pour l'écologie, pour nous. Vous avez un endroit où on peut donner nos appareils électroniques. Comment ça fonctionne?
Bien, écoutez, on est devenu membre de ARP Québec, donc on fait la collecte. C'est le seul recyclage qu'on fait parce que le reste des biens, évidemment, on veut des biens qu'on peut revendre à la population. Donc, pour le reste des biens de consommation, les vêtements et tout, on dit « donnez-nous ce que vous donneriez à un ami », donc quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas brisé.
Ah, ça, c'est bien ça.
Oui. Mais pour les choses électroniques, effectivement, c'est du recyclage. Donc, vous pouvez nous amener vos ordinateurs, les écrans, les claviers, les imprimantes, ce genre de choses dans nos centres de dons. Encore une fois, renaissancequebec.ca, vous allez trouver nos centres de dons. Puis souvent, les gens, là, quand ils viennent au centre de dons, se rendent compte qu'ils peuvent amener toutes les choses qu'on a données, puis ils reviennent. Puis nous, on est bien contents, évidemment. Et ces choses-là, ça va dans des... et ARP est accrédité. Donc, ARP accrédite aussi des endroits qui vont démonter ces instruments électroniques-là, ces ordinateurs-là, pardon, puis de façon écologique. Donc, s'il n'y a personne là qui va enterrer des écrans avec du mercure, hein, comme ça se faisait il y a quelques années, tout est fait selon les normes environnementales. Donc, ça vaut la peine là, de nous amener ces choses-là ou de trouver un autre endroit que ARP accrédite pour amener les choses.
Alors, aujourd'hui, 3 février 2015, comment vous êtes rendu à Renaissance? Est-ce que vous avez assez de dons? Est-ce que ça va comme vous voulez? Parce que parfois, il y a une période très forte. Hein? Les gens donnent toujours au même moment, à Noël et tout ça. Là, comment vous êtes dans vos magasins?
Mais écoutez, la période d'hiver, particulièrement avec des moins 23, moins 24, on manque de dons, c'est certain. Mi-décembre à la fin mars, c'est une période pour nous. Si les gens ont des choses à donner, puis il fait un petit peu moins froid, là, puis vous avez le goût de sortir, on est très contents, très heureux. Encore une fois, je veux profiter de l'occasion pour remercier la population montréalaise. On est littéralement adopté par les Montréalais, les Montréalaises.
Bien.
C'est souvent les Montréalaises qui donnent ça à leur mari, au conjoint, en disant « amenez ça à Renaissance » parce qu'ils savent ce qu'il faut sortir du garde-robe.
Bon, ben c'est comme ça.
C'est comme ça, puis on est bien contents.
C'est souvent elles qui achètent encore, malheureusement. Ouais. Ben, les hommes achètent, mais c'est moins fréquent. Quoi.
C'est ça. Donc, tous les on a besoin de dons additionnels. Nos magasins roulent bien. Et Dieu merci, les choses vont bien. Mais si les gens ils ont des choses à nous donner, on est là les bras ouverts, ça c'est certain.
Alors très bien, on fait une petite pause musicale et on sera rendu au jeu questionnaire de la fin de l'émission. Pierre Legault, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Moi, je pense qu'il faut que je parle de Jean Vanier parce que j'étais à l'Arche là-bas. Puis je pense que je m'attendais pas à jamais rencontrer quelqu'un aussi cohérent, aussi engagé, quelqu'un qui avait une vision, puis qui avait engagé sa vie derrière sa vision. Puis je pense que, comme je disais tantôt, ça m'a inspiré énormément. Puis plus jeune, j'étais un peu étrangement dans le sens où c'était pas du tout, l'époque était pas comme ça, mais intéressé par Tolstoï, Gandhi, ces gens-là. Puis il y avait toute une correspondance entre Tolstoï et Gandhi qui faisait des expérimentations. Puis qui réfléchissait sur la direction de la société. Puis c'est étonnant quand on voit aujourd'hui ce qui nous préoccupe, Puis ce qu'on aimerait que la société devienne, puis qu'on sorte là, de la consommation, c'est de ça que ces gens-là parlaient au début du 19e siècle.
Donc, là. Ils étaient avant-gardistes.
Ils étaient vraiment avant-gardistes. Puis Gandhi, qui expérimentait en Afrique du Sud, là, sa non-violence, qui était pour ensuite réussir à libérer l'Inde avec ça. Mais c'était le genre de... Ça m'inspirait énormément, puis je ne savais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est ce qui m'inspirait.
Vos mentors.
Mais moi, je dirais, il y a eu Jean Vanier encore une fois, parce que c'était très marquant dans ma vie. Puis ma mère qui est quelqu'un d'extrêmement équilibré, avec des valeurs très, très solides. Mon père est décédé, elle avait juste 48 ans. C'est réorganisé, là, à la 80... joue au bowling, fait ses danses en ligne, prend ses marches, mange bien, lit beaucoup.
Alors, votre maman, son prénom?
Janine.
Les livres que vous nous recommandez?
Les livres recommandés, mais moi, j'ai beaucoup aimé Les Misérables, L'Alchimiste de Paulo Coelho, quelque chose que je n'ai pas pensé, mais j'y repensais tantôt, Le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. J'ai lu ça, j'étais dans vingtaine, puis je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Il a gagné le prix Nobel probablement, en 1946, probablement à cause de ça.
Oui, tout à fait.
Mais c'est peu, on entend peu parler aujourd'hui, mais c'est des livres.
Mais c'est vrai. Et les artistes qui vous inspirent?
Ben, Félix Leclerc, moi, ça date un peu de mon époque, mais même avant moi. Jacques Brel, qui me fascine encore aujourd'hui. Andrea Bocelli, qui c'est le chanteur, je dirais ça comme ça, ouais.
Et quelles sont vos villes préférées?
Paris, Montréal, évidemment, là, mais à part Montréal, Paris, j'adore Paris.
Pourquoi?
J'adore Paris, c'est unique. Il n'y a pas une ville comme ça dans le monde. Genre, la richesse, évidemment, culturelle, toute l'histoire, mais la vie dans Paris, les Parisiens, c'est léger, c'est agréable. On est là avec des copains ou en famille, puis aller à un bistrot. C'est profiter de la vie, là.
Et Montréal?
Montréal.
Ah oui, mais vous me dire pourquoi?
Pourquoi Montréal? Ben, j'aime la simplicité dans le sens de l'innocence des Montréalais, l'accueil des Montréalais. J'aime la multiculturalité de Montréal. J'aime l'espèce de mi-chemin entre l'Amérique et l'Europe de Montréal. J'aime tout ce qui se fait aujourd'hui chez les jeunes au niveau environnemental, au niveau de repenser. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà dans l'après, la société dans laquelle on est. Puis on ne retrouve pas ça partout. En Amérique du Nord, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé. Il y a quelque chose de spécial à Montréal.
La jeunesse, une
qui prépare l'avenir.
Celle qui est sortie en grand nombre dans la rue,
celle qui
s'exprime.
C'est puis toute l'agriculture urbaine, les gens qui réfléchissent où on s'en va, le sens de la société, des gens qui veulent faire autre chose que tout simplement boiter le pas, qui réfléchissent. Ça, je trouve ça, c'est beau à Montréal. Tous les festivals et tout le reste, évidemment.
Merci beaucoup, Pierre Legault. Merci. Merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites.
Ah, c'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir d'être ici.
Merci à mon équipe, Jean-Sébastien La Liberté qui signe l'émission, la réalisation de l'émission, Christiane Campagna à la recherche et puis aux médias sociaux, Claudia Benoît, c'est Sophie Stanquet qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye bye.